Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire, podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver, André Loez, pour ce nouvel épisode aujourd'hui consacré à l'histoire de la conquête spatiale qu'il faudra entendre dans tout son sens militaire, voire martial par moment, puisque c'est une partie importante de l'ouvrage de nos deux invités, de restituer toute la dimension aussi proprement militaire de cette entreprise qu'on a tendance parfois à regarder préférentiellement sous l'angle de la prouesse technique ou scientifique, voire du spectacle, et même de l'idéologie, ce que nos invités appellent, le terme n'est pas de vous, mais il est utile, l'astroculture, et qui fait parfois écran et masque certaines réalités historiques et structurelles de toute cette entreprise.
Une entreprise spatiale que beaucoup d'enseignants et d'élèves de lycée abordent dans le premier thème de nouveaux espaces de conquête, de l'option histoire géo, géopolitique, sciences politiques en terminale. Et du coup, on espère aussi que cette émission et surtout le livre dont on va parler vont leur servir. Et pour en parler, nous recevons effectivement les deux auteurs d'une très approfondie et exhaustive somme sur le sujet. Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space, paru il y a quelques semaines à La Fabrique. Tout d'abord Arnaud Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste d'histoire des sciences et des techniques, et tout particulièrement de la conquête spatiale. Bienvenue sur Le Fil de l'Épée. Ainsi qu'Irénée Regnault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant, essayiste, chercheur associé à l'Université de technologie de Compiègne. Bienvenue également. Alors, on l'a dit, c'est un ouvrage extrêmement large qui creuse l'histoire de la conquête spatiale d'une manière qui dépasse très largement le seul angle militaire qui est généralement le nôtre dans cette émission. Même si, en vous lisant, on s'aperçoit que cette dimension militaire, que ce soit pour les acteurs, pour les gens qui ont été à l'origine du spatial ou les usages, est en fait assez omniprésente. Et peut-être que le plus simple, c'est de repartir, en vous donnant la parole, du point de départ de cette aventure qui se situe dans l'entre-deux-guerres, qui se situe avant 1939, de part et d'autre de l'Atlantique, même un petit peu en URSS. Il y a des physiciens, il y a des bricoleurs qui imaginent des fusées, il y a des rêveurs, mais assez vite, il y a des militaires qui vont se révéler intéressés pour s'approprier ces chantiers en train de balbutier.
Alors, assez vite, je pourrais temporiser sur cette... modérer cette affirmation, parce que ça prend du temps d'acculturer les militaires à la pertinence de ces technologies qui sont très embryonnaires et qui marchent pas vraiment, en vérité. Il y a en effet pas mal d'artisans, d'ingénieurs qui testent ce qui deviendra plus tard la technologie de la propulsion balistique, la propulsion du moteur fusée. Mais en vérité, ça marche pas. Il y a des explosions et même des morts. Donc c'est pour les armées, c'est pas encore complètement convaincant.
Moi, vous écrivez quelque part que c'est une activité artisanale très masculine et très risquée.
Oui, clairement, c'est un hobby dangereux pour l'instant.
C'est un hobby dangereux qui fascine des petits groupes très localisés en Europe. Alors en Allemagne, en Autriche, un peu en France et aux États-Unis, mais c'est très peu organisé. Il y a des débuts d'associations qui se structurent souvent, alors c'est reconstruit dans l'histoire de l'astronautique comme une espèce de proto-histoire de la conquête de l'espace, avec donc ces petits groupes. Dans les années 30, disons, les armées commencent à voir que ça peut avoir en effet une pertinence. C'est des missiles, en vérité, qui sont en cours de conception. Donc les armées, notamment en Allemagne, commencent à mettre un peu de billes. C'est pas non plus des sommes formidables. Et donc c'est un début de commande publique qui s'organise, mais là aussi de façon très incoative. On va sans doute parler de la guerre froide. C'est pas du tout les budgets qui seront alloués à ces activités. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de marginal, qui va s'organiser au fur et à mesure et prendre une pertinence militaire et construire clairement un usage militaire qui est natif, quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans l'histoire de la conquête spatiale. C'est d'abord militaire. Ça va au fur et à mesure se civiliser, entre guillemets, mais il y a cette construction initiale qui s'opère par la voie militaire.
Alors c'est un point peut-être important à signaler, votre livre, c'est pas un livre d'histoire classique généalogique qui partirait de Jules Verne, de la Terre à la Lune, pour ensuite partir donc des rêveries d'auteurs futuristes pour aller vers les choses plus concrètes, mais qui finalement nous fait entrer directement dans ce moment de l'institutionnalisation et de la mise en œuvre d'un certain nombre de pratiques très fortes qui est le moment de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, voilà, on a été tous les deux avec Alexandre extrêmement intéressés par le fait qu'il y a une matrice nazie évidente, connue en partie à travers la figure de von Braun, mais que vous retravaillez en profondeur dans le livre. Et du coup, peut-être qu'on peut tout de suite démarrer.
Ouais, je veux dire, c'est un truc qui est important parce que il faut parler des nazis, ça, on le fait, enfin, c'est assez habituel, mais il faut le faire en détail et en profondeur. Et c'est des choses, vous relevez que c'est des choses qu'on sait vaguement, quoi. Les nazis, le V2, Werner von Braun, on connaît parfois le nom, etc. Mais c'est souvent de manière allusive, souvent de manière floue. Et c'est d'ailleurs le résultat d'un certain travail narratif après-guerre par les premiers intéressés qui se sont réappropriés cette histoire-là. Mais donc, il faut entrer dans le détail vraiment de ce qui se passe dans ces années-là, de cette matrice-là, au bord de la Baltique, dans la base de Peenemünde, où, contrairement à cette idée reçue un peu molle, là, c'est pas des braves scientifiques passionnés d'aéronautique qui se trouvent à bosser pour les nazis par un sale coup du sort, mais c'est bien une entreprise qui est proprement nazie dans ses acteurs aussi bien que dans ses méthodes et ses objectifs, et qui est par ailleurs totalement accolé au système concentrationnaire nazi, notamment le camp de Dora à cette époque-là. Je ne sais pas qui
il y en a. Oui, c'est ça, en fait, effectivement. Pour le premier point, je pense que c'est un travail qu'on a voulu faire. Il y avait quand même une ligne de crête à emprunter sur le côté trivialement point Godwin de ce livre, mais ce n'est pas du tout ça. Effectivement, nous, on reconstitue une histoire un petit peu longue qui commence aussi militairement dans les années 30 et qui se consolide pendant les années 40 pour dépasser les deux paragraphes qui sont généralement attribués à von Braun comme un espèce de mal nécessaire. C'est nécessaire qu'on efface un petit peu. Et il y a ce paradigme de Peenemünde 2, effectivement, qui est très important, puisqu'on a quand même la construction d'une base proprement militaire, qui est un tournant industriel, en fait, dans l'histoire de l'astronautique, qui est aussi un tournant qui est celui de la big science, quoi. Donc la science qui est nourrie par les fonds publics, par l'État, avec une usine qui est absolument structurée, en fait, hein, des chaînes de fabrication qui sont tout à fait construites, qui sont gigantesques. On a des milliers de scientifiques, d'ingénieurs, effectivement, de concentrationnaires, de différents pays qui vont venir travailler pour fabriquer en série les V2. Alors, avec une temporalité un peu étrange, puisque l'Allemagne nazie va vouloir faire des V2 et puis hésiter un petit peu, puis recommencer. Puis en fait, Hitler va finir par en demander quand même jusqu'à 2000 par mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc des chiffres absolument énormes qui ne seront jamais.
Donc
vraiment...
les V2, rappelons, c'est quand même les premiers missiles de très longue portée. L'idée, c'est quelques milliers de kilomètres.
En fait, ça peut être quelques milliers de kilomètres. Ce sont en fait, ça ressemble à une fusée. On le disait tout à l'heure, c'est la fusée de Tintin, en fait. Elle a un damier noir et blanc pour voir comment elle tourne, pour des raisons très, très pratiques. Ce sont des missiles qui peuvent aller assez haut, en fait, frôler l'espace, 80 km, 90 km, et donc atteindre une vitesse où, et surtout une altitude, les frottements sont beaucoup plus faibles, en fait. Donc, ce qui permet une trajectoire balistique qui leur ont permis, effectivement, d'atteindre Londres, d'atteindre Anvers, de faire quelques milliers de morts. Mais surtout en fait de générer énormément de peur, de frayeur. Ce sont des armes de terreur, de représailles en fait, et qui vont coûter cher.
C'est le nom même du V2 d'ailleurs. Hein,
oui,
ça veut dire arme de représailles.
Absolument.
Mais il faut en tempérer l'efficacité, puisque vous montrez bien, vous indiquez bien que ça fait énormément moins de dégâts qu'un classique raid de bombardier, et que vous écrivez, ça fait moins de morts chez les Alliés que dans le camp de Dora pour construire les V2.
Des enjeux, en effet, c'est le guidage de ces missiles qui ratent constamment leur cible. Et d'ailleurs, c'est un des ingrédients de la panique que ça produit, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va atterrir. Et c'était pas forcément voulu, d'ailleurs.
Suffit pas de pas habiter à côté d'une usine d'armement, ça ne nous garantit rien.
On peut peut-être ajouter aussi une panique provoquée par le fait que ce sont des missiles qui vont plus vite que le son, ce qui est tout à fait nouveau. Et donc, à la différence d'un bombardement classique, on entend arriver une flotte aérienne, ou éventuellement on entend le sifflement d'une bombe, là, avant l'impact, il n'y a absolument aucun moyen de deviner. Et c'est ça qui a un effet psychologique très très dur pour les Britanniques et les Néerlandais.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce travail d'industrialisation aussi, de la production des V2, donc à Peenemünde, et puis après on évoquera sans doute Dora Mittelbau, mais il y a aussi toute cette R&D hyper intensive autour d'autres technologies de guerre qui font partie en fait de l'arsenal plus ou moins en puissance virtuelle qui est travaillé, testé, à Peenemünde, qui est un centre de R&D aussi. Hein. Tu parlais de Big Science. On en parle souvent dans l'histoire des sciences comme un des premiers lieux de cristallisation, d'expérimentation de la Big Science, comme l'a été le projet Manhattan dans d'autres conditions aux États-Unis. Et ça se couplera plus tard, on en parlera sans doute. Et donc, c'est toute une matrice donc organisationnelle, de production, mais aussi de stabilisation de ce qui deviendra l'astronautique moderne, avec l'idée qu'on va occuper militairement l'espace et produire cet effet
Mais juste, si on peut détailler de manière un peu substantielle, qu'est-ce qu'ils inventent là, exactement ? Alors, on reparlera après de l'organisation, parce que c'est très intéressant et ça va se translater très efficacement outre-Atlantique, mais juste techniquement, c'est quoi ces briques-là qui ont l'air si essentielles, puisque tout le monde va les reprendre après? Qu'est-ce qu'ils ont percuté dans ces laboratoires-là?
Déjà, un point, le Graal, c'était quand même le moteur fusée, hein. Faire fonctionner un moteur fusée.
C'est-à-dire, c'est quoi un
moteur fusée? C'est-à-dire, c'est des ergols liquides, il faut les faire réagir les uns avec les autres, il faut produire une poussée, il faut stabiliser ensuite une trajectoire, enfin, c'est hyper complexe.
Sans que ça explose.
Exactement. Il y a pas mal de films en noir et blanc où on voit des V2 qui explosent dans tous les sens. D'ailleurs, c'était excessivement dangereux à tester depuis la Baltique.
D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui, l'anecdote, Elon Musk qui envoie des dizaines et des dizaines de fusées et qui les fait exploser. En fait, on voit un peu, le parallèle n'est pas forcément très évident, mais en fait, ce sont aussi du mode de test and learn qui existe depuis cette période-là. En fait.
Et donc, déjà, réussir à contrôler cette explosion, c'est excessivement difficile. Goddard, de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, a essayé de le faire avec des fusées sondes beaucoup plus légères, etc. Avait un mal fou à le faire. Enfin, ça décollait pas très haut. Et là, en termes de ne serait-ce que d'altitude, on dépasse en 43 les 100 km. Donc, techniquement, on va dans l'espace. Enfin, la frontière qui sera établie un peu plus tard à 100 km officiellement, quoi. Donc, il y a cette brique de base de la technologie spatiale. Il fallait pouvoir décoller, quoi. Et ça, c'est énorme en termes de technologie. À tel point d'ailleurs, et ça c'est toute l'histoire de l'astronautique qui l'établit, hein, que là on a une espèce de souche technique qui va circuler un peu partout, qui va être une formule technique qui va être reprise, qui a été maîtrisée là, industrialisée pour les besoins de la production militaire. Hein. Mais là clairement on a quelque chose comme une différenciation technique qui va produire un effet monumental dans la structuration de toute une filière industrielle.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a la naissance d'une forme de croyance démiurgique stratégique, c'est-à-dire l'idée que une technologie et sa maîtrise donnent un avantage stratégique décisif? On sait que Hitler, au moment où il appuie très fortement ses programmes, en particulier à partir de 1944, c'est parce que tout simplement l'Allemagne n'a plus la main-d'œuvre nécessaire en termes d'infanterie pour faire face au rouleau compresseur soviétique. Et l'idée du coup, c'est de trouver l'élément stratégique à travers une arme miracle, c'est comme ça qu'on les appelle, Wunderwaffen, une arme miracle qui va faire basculer le sort de la guerre. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que l'histoire de la guerre froide et de la course aux armements de la guerre froide, c'est un petit peu un rejeu de cette idée qu'il faut un avantage militaro-industriel technique décisif pour l'emporter dans une confrontation stratégique.
C'est clairement ça, en fait. Et comme vous le dites, ça suit derrière pendant la guerre froide. Et encore aujourd'hui, en fait, on a toujours ces mêmes références à ce qu'on appelle astrodéterminisme, de façon peut-être un peu pompeuse dans le livre, mais bon, c'est ce que vous expliquez, de cette arme qui va déterminer, en fait, la victoire, la domination, la capacité à contrôler du haut ce qui est en bas. En fait, c'est la colline, en fait, tout simplement. Mais ça va leur coûter très cher, puisque finalement,
I have the high ground.
C'est the high ground, exactement. Et c'est des métaphores qui reviennent sans cesse et qui sont, qui ont énormément de limites. Et en fin de compte, vous l'avez dit aussi, en termes de puissance de feu par rapport à des bombardements classiques, par rapport aussi à l'Allemagne qui se fait bombarder à ce moment-là, et les Anglais vont aller bombarder la base de Peenemünde en 1943, donc ce qui explique le déménagement après à Dora, c'était pas un très bon calcul, en fait. Alors après, c'est difficile de faire des analogies directes avec la suite, puisque le spatial en URSS aux États-Unis, c'est pas la même histoire, c'est pas la même temporalité, ça va durer beaucoup plus longtemps, et surtout, c'est pas les mêmes engins, puisqu'on va passer à des satellites de reconnaissance. Mais oui, effectivement, il y a l'idée d'une arme miracle qui va s'avérer en fait plutôt une arme qui ne va pas vraiment marcher, quoi.
Mais il aura fallu quand même convaincre l'état-major. Les plus hauts dignitaires nazis dans les armées n'étaient pas forcément convaincus de la pertinence de la chose. Hein. Et ça a pris du temps. Et von Braun a dû faire l'article auprès de Hitler, de Himmler aussi, qui n'était pas forcément très intéressé au départ. Et après, ça prend. Hein, c'est la démonstration, la démo qui prend finalement. Il présente
un film à Hitler.
Exactement. Et là, il est impressionné. Et ça devient, en effet, cette arme potentiellement miraculeuse qui peut sauver l'effort de guerre, mais ça s'est pas fait tout seul. Et finalement, c'est assez tardif hein, dans la guerre. Enfin, après, on peut réécrire l'histoire, l'envisager a posteriori, mais ça s'est pas fait de façon hyper souple. Hein, la construction de la V2 comme vraiment l'arme miracle. Quoi.
Et justement, restons là-dessus sur cette dimension proprement nazie, parce que je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais il y a cette idée qu'ils auraient été nazis par hasard, en passant, parce que c'était là qu'il y avait de l'argent au bon moment, et puis ils étaient allemands après tout, donc pouvait-on ne pas être nazis pendant la guerre, etc., etc. Vous montrez que c'est pas ça. C'est des SS, ils le sont vraiment, ils sont convaincus, ils ont une vraie carrière dans le parti, et c'est ce qui rend... Et par ailleurs, c'est complètement accolé, à partir d'une certaine date, au camp de Dora. Donc c'est vraiment une entreprise tout à fait concentrationnaire, et les gens vont mourir dans le cadre de l'entreprise concentrationnaire nazie. Donc c'est pas, ça rend d'autant plus choquant ce qui va arriver juste après, c'est-à-dire le fait qu'ils vont tous partir et faire une deuxième carrière très florissante. Mais il faut préciser que voilà, ça n'est pas discutable, c'est établi ça.
Oui, mais je pense qu'en fait ça a été désétabli ou reconstruit par la suite en fait. Hein, toutes ces personnalités, donc c'est comme des centaines d'ingénieurs hein, qui passent aux États-Unis, en France après la guerre et qui vont être protégés en fait pendant des décennies pour certains, donc comme von Braun qui vont prendre des fonctions très importantes dans le programme Apollo. En fait, alors même qu'ils rentrent aux États-Unis, très vite la CIA établit un certain nombre de rapports sur certains d'entre eux, que ce soit Dunberger, que ce soit von Braun et tant d'autres, qui sont effectivement complètement 100% nazi, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais il y a une forme de déni quand même, puisque ce sont des personnalités très inspirantes, des mots même d'astronautes français jusqu'à très tard. On a, alors on le cite au début du chapitre également, hein, encore une rue à Saint-Marcel dans l'Eure, donc à côté de Vernon, au nom de Karl-Heinz Henri Bringer, qui était un nazi en fait, hein, tout simplement, puis qui a transité à Vernon pour fabriquer les moteurs de la fusée Ariane. Mais c'est un passé gênant en fait. Donc c'est pour ça que l'effort de ce livre, je pense qu'il est quand même important, puisque ce sont des éléments qui sont partiellement connus, alors en synthèse de cette manière, pas forcément, mais qui méritent d'être redit en fait, parce que c'est quand même, quand on regarde bien, une partie de l'histoire du spatial, 15 ans, 20 ans si on va jusqu'au début des années 30, qui est plus longue qu'Apollo, et qui est complètement escamotée par le programme Apollo qui dure finalement que 10 ans.
Alors disons-le, donc c'est ce grand transfert qui va avoir lieu en 45, la ruée sur les nazis, donc c'est, on le connaît parfois par l'opération Overcast Paperclip, et où ils vont donc être envoyés aux États-Unis pour travailler globalement exactement sur la même chose, et ils vont être mis, on va créer, et ça moi je ne le savais pas du tout, on va créer un camp nazi, littéralement en Alabama, ce qui fait que vous indiquez bien qu'en fait, du coup, ça ne pose pas particulièrement de problème culturel, ils se ressentent, ils vivent assez bien le choc culturel, parce que déjà ils vivent entre eux pour faire exactement la même chose qu'ils faisaient avant, et dans un endroit où, en vérité, il y a quand même certaines affinités. Quoi.
Un camp peut-être, précisons, au sens camp militaire, oui, et pas concentrationnaire.
Mais c'est même un centre, en fait, c'est un centre technique de l'armée. Hein. Et alors ça, c'est parmi les interprétations que nous proposons. Alors, on se base sur des sources hein, historiques. Hein. Alors, on a consulté aussi des sources primaires, entre guillemets. Il y a beaucoup d'histoire orale, par exemple, hein, de toute cette histoire du programme spatial américain, avec ces figures hein, qui sont transplantées. Hein. Donc, on se base sur ces sources-là, et dans ces sources-là, eh bien, moi, ce qui m'avait frappé, c'est de voir qu'il y avait une interprétation qui était proposée par les acteurs eux-mêmes, qui était l'idée de la transplantation. Donc, on a des méchants nazis, alors certes très habiles, hein, qui produisent des technologies très forts, hein, produisent des technologies tout à fait avant-gardistes, etc. On les transplante hein, depuis l'Allemagne nazie vers les États-Unis, où ils vont découvrir la liberté, ils vont être transfigurés par la grandeur de l'Amérique, et ils vont devenir des bons Américains, et tout va bien se passer. Et puis, ils vont se transcender dans l'effort de défense de l'Amérique. L'idée de la transplantation, elle ne tient pas du tout, en effet, parce que l'Amérique, en fait, on parle de terreau fertile. Elle était très bien préparée, en fait, à les accueillir. Alors, c'est l'Alabama, en effet, et avant... Les déserts, on les a un peu cachés quand même. Hein. Quand ils sont arrivés dans les années 46-47, on ne savait pas trop qu'ils étaient présents. C'était vraiment très, très secret. Mais il y a un moment donné, l'armée décide de les déplacer. Enfin, c'est l'US Air Force hein, en Alabama. Pour y fonder ce qui va devenir le centre Marshall, hein, que von Braun va diriger, qui est un des centres les plus puissants, les mieux dotés techniquement, humainement de la NASA hein, dans les années 60, qui va véhiculer littéralement le programme Apollo. c'est un État ségrégationniste, encore, enfin, qui vide son passé ségrégationniste. Il y a des champs de coton autour du centre Marshall. C'est quand même l'ambiance, avec des, encore des pendaisons du Ku Klux Klan à l'époque, hein, avec donc un racisme qui est présent, une glorification du blanc. C'est là qu'on va entre guillemets, transplanter les ingénieurs nazis, qui sont à peu près 120 autour de Von Braun, qui vont y vivre une vie paisible, hein, avec leur famille, qui vont largement contribuer d'ailleurs à la vie commune, hein, à Huntsville, Rocket City, hein, qui va devenir Rocket City avec son centre Von Braun encore aujourd'hui. Hein, donc, il n'y a pas encore de cancel culture sur ces questions là-bas, même si c'est une mémoire très contrariée, hein, autour de tout ça. Mais voilà, ce qu'on essaye de dire, c'est que en fait, l'Amérique était prête à les accueillir de façon tout à fait généreuse. C'est pas un miracle pour le coup que ça prenne, quoi. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, moi, ça produit des effets mais hyper structurants de ce que va devenir le programme spatial américain. Et en effet, sans ces spécialistes, comme on les appelait, je pense que les Américains se seraient développés bien moins rapidement. Enfin, la formule Goddard marchait pas. Donc là, il y a une greffe qui prend bien, et pour les raisons que je viens d'indiquer. Et ça, on le lit très peu souvent. Et quand je tiens le pari, hein, le 21 juillet, comme chaque année, on va parler d'Apollo, de l'alunissage, d'Apollo 11, etc. Et, vous allez avoir des grands titres. Ah, mais derrière ce programme, il y avait un nazi. Et chaque année, c'est la stupeur et la sidération. Alors, c'est hyper connu, en fait. Et ça aussi, on essaye de le mettre en perspective, cette mémoire qui ne passe pas, entre guillemets, en fait, si, et tout le monde le savait, malgré tout, dans les années 50-60.
Du point de vue institutionnel, comment ça se passe? Parce que l'exfiltration des savants nazis, c'est plutôt l'OSS, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA, les services secrets. Par la suite, il y a l'Air Force et la Marine, la Navy, qui toutes les deux sont intéressées par le développement d'armes nouvelles. En 1958, il y a une instance à part qui est la NASA, mais justement, avant que ce soit institutionnalisé de cette façon-là, est-ce que ça se fait harmonieusement? Est-ce que finalement, on a des rivalités, des tensions pour gérer ces savants nazis et puis leurs sous-traitants états-uniens et les gens qui vont travailler avec?
Alors, ce qui est intéressant avec ces savants nazis, enfin ces ingénieurs, plutôt des ingénieurs, hein, c'est des techniciens, hein, on les reconstruit comme rocket scientists, bon, c'est vraiment un abus de langage. Hein, et ça, on s'autorise aussi, c'est des précautions sémantiques de Michael Neufeld, qui est le grand historien, hein, de Pynman, qu'on cite à foison, parce que vraiment, il nous a beaucoup marqué, enfin, ses écrits sur la biographie de Von Braun, etc. Et en effet, ces ingénieurs nazis sont appropriés. Alors massivement, c'est l'US Air Force qui les récupère. Et il y a des rivalités entre la marine et l'US Air Force. L'US Air Force qui a été créé en 46. Hein. Donc il y a des rivalités bureaucratiques, inter-services, etc. Et il y a des programmes parallèles qui sont en compétition, plus ou moins pour les mêmes budgets, pour développer les mêmes armes, à peu près pour les mêmes objectifs. Et il se trouve que c'est la formule Von Braun qui va l'emporter en 58, et puis qui va satelliser le premier satellite en réponse à Sputnik. Mais clairement, eux, ils sont au milieu de ce panier de crabes militaires et ces stratégies d'appropriation d'une denrée expertale hyper rare, quoi.
Sachant qu'entre-temps, il y a eu évidemment août 1945, les deux explosions atomiques sur le Japon, ce qui veut dire qu'il y a encore un autre pôle militaro-scientifique aux États-Unis, qui est celui des gens qui font les grands tests atmosphériques, qui développent la bombe H. C'est des mondes qui dialoguent pour l'instant, qui sont encore cloisonner les ingénieurs allemands qui fabriquent des fusées et puis ceux qui font détonner des milliers de mégatonnes.
Dans les années 50, ça reste encore assez cloisonné. Ça va venir un peu plus tard. Les tests, etc. Et d'ailleurs, dans des conditions assez terribles, hein, à la fin des années 50, début des années 60, on fait quand même sauter des bombes vaches dans l'espace, quoi. Enfin, c'était quand même l'ambiance, hein, l'essai Starfish Prime, qui a été filmé. Enfin, on voit des détonations assez inquiétantes, hein, très haut.
Il fallait bien tester.
Il fallait bien tester, voilà. Et cette convergence s'opère un peu après, ces deux vecteurs, enfin, le nucléaire et l'âge spatial, qui sont définitoires de ces technologies de guerre froide. Mais ça, là aussi, ça ne s'est pas fait tout seul, quoi. Il a fallu mobiliser les gens. Il y a eu là aussi des conflits de territoire, des conflits d'autorité. Et puis, c'est tellement énorme, le militaire aux États-Unis. Enfin, donc, que ce n'est pas étonnant que ça ne se soit pas organisé de façon magique et miraculeuse dès 45 ou 46 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais à un moment donné ça converge, et ça converge dans le sens de cette mobilisation.
Mais alors, ce qui est intéressant aussi dans cette transplantation, c'est donc qu'il y a tous les savoirs techniques qui sont acquis, il y a aussi des savoirs organisationnels sur lesquels vous insistez, parce que c'est pas rien dans l'entreprise de Peenemünde. Et c'est pas rien, parce que c'est très contre-intuitif. En fait, c'est pas du tout comme ça que fonctionnaient les États-Unis originellement. C'est-à-dire, en fait, les nazis, enfin l'Allemagne, il centralisait tout et vous indiquez bien qu'il faisait un truc très méthodique, quoi. Une découverte, enfin un progrès, il stabilise, il confirme, ensuite c'est très incrémental. Et tout à l'intérieur. Il y a une phrase allemande qui est tout sous le même toit, etc. Ce qui est très très opposé au fonctionnement américain de il y a plein de sous-traitants qui fabriquent les choses que nous on leur commande, etc. Donc est-ce qu'on peut parler un peu de cette manière dont, pour le coup, il y a une vraie culture allemande, structurelle, qui va complètement s'implanter, qui va donner, qui va structurer aussi ce succès de tout le programme spatial américain.
Oui, je pense qu'elle va complètement pénétrer en fait ce qui va devenir la NASA en fait. Alors ça va pas forcément se faire très facilement. Faut voir. On a un peu peut-être passé vite sur Dora. Je pense qu'il faut voir aussi la continuité à Dora dans les tunnels à partir de 1943. On a véritablement des usines qui sont construites sous terre avec des chaînes de montage absolument énormes, un travail à la chaîne. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi reconstruire l'histoire industrielle un peu finement, puisque ce sont aussi des systèmes qui sont récupérés du fordisme, du taylorisme, qui vont aussi inspirer les États-Unis avant-guerre en fait, et puis qui vont revenir ensuite à la NASA avec une culture du chef qui est très importante,
de l'ingénieur en chef,
les figures autoritaires, figures voilà, qu'on va aussi respecter, qui est celle de Von Braun. Et donc effectivement derrière ça va interroger un peu la façon dont fonctionne le programme spatial américain.
Mais alors ça, c'est un point excessivement crucial. En fait, il y a des régimes organisationnels qui coexistent quand même. Le système de contractants, de sous-traitants, etc., de la filière industrielle du militaire aux États-Unis existe encore dans ces conditions-là, avec des grosses compagnies, des firmes, hein, Boeing, etc., qui vont se reconfigurer aussi dans l'effort de guerre. Le modèle Von Braun de l'intégration verticale, ce qu'on appelle l'intégration verticale aujourd'hui, ce qui n'est pas un truc très neuf, hein. On crédite par exemple un certain Elon Musk d'avoir inventé cette formule dans ses usines à Los Angeles. Bon, c'est un truc assez vieux qu'on peut retrouver à Peenemünde. En effet, on contrôle tout et on déploie de façon incrémentale en certifiant au fur et à mesure. Et en testant à chaque fois, en vérifiant qu'on a bien validé la technologie. Ça, c'est le modèle. Et puis, de contrôle où on a la main sur toutes les chaînes de commandes, quoi. Et pour éviter précisément les dilutions dans le passage d'ordre. Et c'est là où on retrouve la figure de l'autorité verticale qui va avec, celle de l'ingénieur en chef. Et on insiste beaucoup sur la dimension du chef, mais aussi du chef charismatique, visionnaire, qui fixe un cap, qui donne un objectif. Et Von Braun, il est vraiment dans cet esprit-là. Et je pense qu'il est aussi passé dans la légende parce qu'il incarne cette vision de l'industrie spatiale qui aujourd'hui est un peu en déliquescence. Les grandes compagnies historiques de l'aérospatiale sont en crise, hein. Boeing notamment, et SpaceX, alors là je fais vraiment un saut dans le temps, je devrais pas, hein, c'est anachronique, mais a été célébrée précisément parce qu'elle surmontait cette difficulté que traversaient les grandes firmes qui ne contrôlaient plus rien. Et d'ailleurs, on le voit dans le domaine de l'aérobotique.
Vous êtes en train de dire que le succès d'Elon Musk est dû à des recettes nazies, c'est exactement...
Alors, c'est une analogie qu'on s'est pas permis directement de faire.
Mais on le dit dans une note de bas de page assez fielleuse. Point de vue de l'organisation, ils inventent pas.
C'est vrai que le coût de l'intégration verticale, c'est vraiment... Bon, en même temps, là ou ailleurs, dans d'autres industries, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Mais bon, ça nous fait doucement rigoler.
Mais quand même, avec un développement hyper agressif des technologies, il y a des papiers en théorie des organisations sur le modèle Marshall, qui est en fait la transposition du modèle Peenemünde en Alabama. Derrière, c'est quand même une vision de on a raison, on sait faire, ça va marcher. Donnez-nous quoi qu'il arrive, budgets. Donnez-nous les budgets et puis posez pas trop de questions, hein, on sait faire. Ça donne la navette spatiale. Il y a eu toute une interrogation post-crash de Challenger sur cette culture organisationnelle qui était vraiment perçue à l'époque comme en crise, parce que précisément, elle était dans une espèce d'arrogance terrible par rapport à sa propre façon de travailler et puis sa non-redevabilité. Enfin, on ne rend pas de compte, quoi. Et ben, ça s'est passé après Challenger. Et il y a eu d'autres crashs avant, mais qui étaient plus ou moins silencieux, etc. Mais voilà, ça, on a quelque chose comme une ossature, comme un modèle qui va à un moment donné prendre sa pleine puissance dans les années 60 et qui va donner cet élan. Et en effet, cet élan au programme spatial, il vient largement de théories qui sont incarnées, mises en place par des gens comme Von Braun.
Il vient aussi des nazis et de gens comme Von Braun, mais pas tout à fait les mêmes, des gens comme Helmut von Zborowski, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent en France avec le même type de transplantation, alors pas exactement peut-être coulés dans la même structure organisationnelle, cette même efficacité de reproduction d'un modèle, ceci dit, ce qui est aujourd'hui Arianespace a un héritage d'ingénieurs allemands récupérés par les services secrets français après 1945 dans la zone d'occupation française, et de développement de lieux, de laboratoires et d'entreprises, à Vernon notamment dans l'Eure, où il y a cet héritage-là également.
On a nos nazis aussi.
Irène Regnault. On les a à Vernon, effectivement, dans un centre qui finalement est complètement calqué sur le Piedmont 2. Alors, c'est malheureux, on ne peut pas vraiment le visiter aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais c'est un centre qui est encore utilisé pour faire des tests d'engins, de moteurs fusées tout à fait récents. On a aussi une petite communauté qui va, de la même manière, Arnaud l'a décrit, mais s'implanter et pas se transplanter à Vernon, mais qui va très bien vivre, en fait, hein, avec des salaires qui vont être tout à fait conséquents, qui vont emmener leurs enfants à l'école, enfin, toute cette culture qui va parfaitement fonctionner. Alors après, on n'est pas en Alabama, donc c'est quand même un petit peu différent. On n'est pas exactement dans le même contexte. D'ailleurs, quand on va à Vernon, c'est pas du tout quelque chose qui est franchement visible. Hein. Il n'y a pas une histoire du spatial. Alors, vous avez vaguement une Ariane 5 sur un rond-point, mais voilà, vous allez dans les boutiques, c'est pas quelque chose de complètement reconnaissable. Hein. Et ces nazis, d'ailleurs, vont pas travailler que pour la France, enfin que pour les fusées. Hein. Ils vont travailler pour, comme on le sait, pour des tas d'autres industries, dans l'automobile, dans l'aéronautique, construire des tas de choses. Dans le luxe, je pense que c'est pas un secret non plus. Et ils vont transiter, enfin ils vont être à Vernon, puis ensuite ils vont aller aussi à Maguire, hein, pour tester aussi dans le désert les premiers missiles fusées français. Donc là, le mariage avec le nucléaire, il se fait aussi très rapidement, en fait, hein, sous De Gaulle. Hein, il y a cette idée de devenir la troisième puissance nucléaire, et très vite, hein, enfin, ces gens-là ont fait gagner. Alors c'est peut-être un peu difficile à évaluer, mais selon ce qu'on regarde, ils étaient potentiellement de plusieurs centaines à plusieurs milliers, jusqu'à 8000 selon des calculs de certains historiens dans l'ensemble de l'industrie, donc forcément beaucoup moins dans l'industrie astronautique, et font gagner 5 à 10 ans en fait au programme spatial français. Donc la France doit son statut de puissance spatiale, donc première puissance spatiale européenne, hein, quand même, hein, c'est la fusée Ariane, et troisième puissance spatiale. Alors ça se discute, parce que bon, là, aujourd'hui c'est plus tellement la même chose, qui est largement aussi dû à ces nazis.
Alors, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la France, on n'a pas parlé des véritables pionniers en termes chronologiques, puisque 1957, Spoutnik, c'est quand même en URSS que ça se passe. Et du coup,
ils ont aussi leur nazi.
Ils ont aussi leur nazi, mais il y a un passage très drôle dans le film 1983, je crois, l'étoffe des héros, où tout le cénacle des dirigeants aux États-Unis se rassemble pour apprendre que Spoutnik a été lancé. Et puis quelqu'un demande comment ça s'est passé, et Von Braun réplique au vice-président Johnson: Our Germans are better than their Germans.
Was it them? Was it their Germans? Scientists got them up there first?
No. No, it was not, Senator. Our Germans are better than their Germans.
Nos Allemands sont meilleurs. Alors, si les Allemands des États-Unis sont effectivement meilleurs et plus nombreux, il y a quand même eu aussi un déplacement de savants nazis en Union soviétique, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions et peut-être pas avec la même autonomie dans le monde soviétique.
Non, ils sont effectivement récupérés à peu près au même moment. Les soviétiques n'arrivent pas non plus. Enfin, ils arrivent un peu tard, en fait, sur la récupération des nazis. Donc, ils n'ont pas forcément les meilleurs. Ils en ont beaucoup qui essayent aussi de se faire attraper par, enfin d'aller à l'Est pour éviter un destin plus funeste éventuellement. Donc le choix est toujours un peu délicat. Von Braun avait choisi clairement l'Ouest, il fallait absolument éviter la France.
C'était globalement un meilleur choix, disons, pour un nazi, l'Ouest.
Absolument.
Plutôt que l'Est.
Mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui n'avaient
pas trop les communistes.
Non, voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui n'avaient pas des niveaux aussi techniques suffisants, en fait, pour être intéressants, tout simplement. Et donc les Russes, les Soviétiques vont quand même en récupérer certains et vont les utiliser, mais les renvoyer assez vite chez eux, en fait, et vont se réapproprier des technologies qu'ils avaient déjà commencé à fabriquer. Donc on aura un équivalent de Von Braun qui est Korolev en Russie. Avec, c'est pareil, c'est une personnalité qui est tout à fait différente, la culture du secret est beaucoup plus évidente, c'est quelqu'un qui va être connu quand il sera mort, en fait, tout simplement. Beaucoup aussi d'ingénieurs seront passés par le goulag avant de revenir, mais effectivement les Russes parviennent, hein, pendant l'année géophysique internationale, à lancer Spoutnik avant, aussi bénéficiant des conflits dont on parlait tout à l'heure entre l'US Air Force et puis et Von Braun. Donc du coup, il y a un certain retard.
Il faut dire, il y a cette ironie quand même que les Soviétiques avaient pris un certain retard dans leur programme, notamment à cause des purges staliniennes dans les années 30, et que du coup, ils vont rattraper le retard qu'ils ont fait en purgeant des communistes réels en intégrant des nazis réels.
Après, le rattrapage du retard, il est aussi un peu symbolique. En 1957, les États-Unis sont à peu près capables d'envoyer un satellite en orbite.
Et ils vont le faire l'année suivante.
Et ça va très bien se passer. Spoutnik, c'est pas non plus grand-chose. Hein.
C'est un retentissement international et dans les esprits aux États-Unis, au moment de la paranoïa maximale de la guerre froide.
C'est pour ça que c'est symbolique. Mais techniquement, c'est comme tous ces gaps qu'il va y avoir après, le missile gap, le mind gap. Il y aura plein de perceptions du retard américain qui sont absolument pas justifiées. Et en fait, elles sont plutôt justifiées par le fait que symboliquement, les Russes sont devant et que vis-à-vis du monde, en fait, ça commence à devenir gênant, en fait. Symboliquement, les Français, les Anglais qu'on interroge à la télé, enfin, ou à la proto-télé ou à la radio, commencent à dire « Ah oui, quand même, voilà, l'ère soviétique, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. »
Je voulais vous poser la question sur un parallèle possible entre, finalement, le modèle nazi et le modèle soviétique. Les nazis, on le sait, ont utilisé une main-d'œuvre concentrationnaire, notamment à partir du moment où il a fallu enterrer les chaînes de production pour éviter que ce soit bombardé depuis le ciel.
On peut d'ailleurs recommander tout à fait en ce moment le Master of the Air de Steven Spielberg et Tom Hanks qui est en train de passer en ce moment et qui parle tout à fait de ces bombardements massifs des usines allemandes, etc., et qui amènent à ce déménagement-là.
Et du coup, du côté soviétique, on sait qu'un grand nombre d'infrastructures soviétiques, notamment dans les immensités au-delà de l'Oural, infrastructures minières, infrastructures de défense, etc., ont été construites avec de la main-d'œuvre déportée, de la main-d'œuvre du goulag. Est-ce que le goulag a joué un rôle, ou même auxiliaire, disons, dans la mise en place des infrastructures spatiales? Voilà, je pose la question simplement parce que ça paraît logique, dans la mesure où, effectivement, il y a ce complexe militaro-industriel gigantesque soviétique avec des villes secrètes, avec des lieux désignés uniquement par quelques lettres qui sont sur aucune carte, où il y a à la fois des détenus, des savants au secret. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des ZEC qui ont aussi contribué au programme spatial soviétique?
Je ne saurais pas répondre directement. Ouais, dans la construction de ces villes invisibles, sans doute. C'est des infrastructures beaucoup, tellement énormes.
C'est beaucoup l'armée aussi.
Mais ouais. Et puis c'est tellement invisibilisé, classe et défense que bon je pense que dans la structure même, oui, évidemment, après dans la conception même de la cosmonautique soviétique, je pense pas, notamment dans la production des armes, mais peut-être quand oui, enfin il faudrait regarder l'historiographie,
faudrait ouvrir les archives,
on demandera à Poutine, je suis sûr que ça va bien se passer.
Les archives sont bien ouvertes en ce moment. Non, mais alors, on parlait de Spoutnik, et en fait, on en est aux années 50, et c'est le moment de parler de l'autre pan qui est tout à fait corollaire, mais parce que c'est la même chose, plus ou moins. C'est le développement des missiles intercontinentaux, des ICBM. Donc ça, c'est vraiment la grande entreprise des années 50, commence vers 53. Le premier qui marche vraiment bien est soviétique en 57. Et ce que vous indiquez bien, c'est que, en fait... tout ça, c'est globalement la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un missile? C'est quelque chose qui est capable de transporter un truc lourd dans l'espace extra-atmosphérique. Et ça, ça marche pour mettre Spoutnik en orbite. Ça marche exactement pareil pour aller taper, pour retomber ensuite et aller taper un autre continent, par exemple les États-Unis ou l'URSS en sens inverse. Et donc, fondamentalement, et c'est important aussi parce qu'il y a cette sorte de dualité. C'est une technologie fondamentalement duale, mais on va retenir beaucoup plus la partie civile, Spoutnik, les satellites, alors que en fait, la matrice, c'est un grand axe du livre, elle est fondamentalement militaire. C'est pour ça qu'on met tant de budget là-dedans, Irène Aragnon.
Oui, non, en fait, pour le dire assez simplement, il n'y a pas vraiment de dualité, en fait. C'est de l'ordre de la fiction. Il y a du militaire qui, au détour des années 60, et c'est quasiment par accident aussi, devient quelque chose d'un peu civil, pour des raisons symboliques, pour des raisons de propagande, pour des raisons...
Quand on dit qu'il devient un peu civil, ça veut dire qu'il y a des missions habitées,
avant de mettre des gens, on met des rats, des lapins, des chats, des singes, de tout ce que vous voulez, on fait des tas d'expériences extraordinaires avec des animaux qui meurent dans tous les sens. Enfin, quand on se repenche sur cette ambiance à ce moment-là, c'est vraiment très bizarre, en fait. On peut légitimement se demander, mais pourquoi on a fait ça? En fait, il faut aussi retracer ça dans toutes les expériences qu'on faisait avant sur les pilotes, qu'on mettait dans des situations absolument incroyables. Et là, Par contre, il y avait ça pendant l'Allemagne nazie, il y avait ça, on prenait des prisonniers pour les faire tourner dans des espèces de machines giratoires, centrifugeuses, voilà, j'ai plus le nom. Et en fait, il faut se dire à un moment donné qu'on met un bonhomme au bout d'un missile fusée qui peut exploser quand même. Et voilà, c'est...
Ouais, du point de vue de l'approche de ces technologies, ce qu'on essaye de faire aussi, alors moi je suis sociologue de formation, et là on a des catégories endogènes, quoi, des catégories d'acteurs pour qualifier, décrire des artefacts. Et l'idée même, déjà, la dualité on l'interroge, mais aussi la distinction entre le lanceur, la fusée, etc. Enfin, là on a des constructions qu'il faut aussi historiciser. Hein. Et l'évidence,
c'est derrière... l'idée qu'il y aurait les gentils lanceurs et les méchants missiles.
Ça, c'est une belle invention, quoi. C'est une fable, quoi. Clairement, y compris d'ailleurs. Saturne V. Enfin, c'est des technologies foncièrement militaires qui ont été développées par Von Braun, qui montent en puissance en échelle, parce que là, il faut satelliser quelque chose de très lourd, il faut l'envoyer vers la Lune. Donc, on monte en puissance, mais grosso modo, on a affaire à des moteurs fusées, quoi. Et puis, des vecteurs de l'arme nucléaire, quoi.
Saturne V, ce sera le lanceur du programme
d'Apollo. D'Apollo, ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'interroger comme pas mal de poncifs aussi autour de ces technologies. Et l'enchantement d'un côté, et puis de l'autre côté, l'anxiété de l'ICBM. Et ce sont des
constructions... L'ICBM, c'est donc le missile balistique intercontinental.
Et ce qui est intéressant, c'est que, ça, je fais un saut dans le temps, mais une bonne partie des missiles balistiques intercontinentaux des années 60-70 ont été redéfinis, requalifiés pour du civil, pour lancer des satellites de télécom, etc. Il y a tout un business autour des lanceurs Atlas, par exemple, de missiles qui vont devenir des lanceurs. Mais grosso modo, on a affaire à la même technologie, hein, qui est raffinée pour des usages un peu différents, mais on a toujours cette même souche technique qui va être diversement appropriée, et in fine, la mise en place, la mise en œuvre de la conception même de ces techniques, voilà, c'est cette histoire qu'on est en train de décrire.
Mais c'est encore le cas, et ce qui est intéressant, c'est que... On regarde aujourd'hui même dans les centres où sont fabriqués ces missiles, je ne sais pas, chez Ariane Group ou ailleurs, jusqu'à des niveaux très élevés de TRL, donc c'est-à-dire de maturité des technologies, donc c'est une échelle qui va de 1 à 9, quelque chose comme ça, ou 10, jusqu'à 6 ou 7. Donc le début, en gros, c'est l'idée jusqu'au prototype, jusqu'à la fin, le déploiement, la commercialisation. En fait, ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur les mêmes objets. Et effectivement, à la fin, il y a une petite divergence parce qu'il faut adapter, créer les conditions d'habitabilité de la capsule. Donc il y a des questions aussi sur les vibrations pour les satellites. C'est pas exactement la même chose, mais globalement, ce sont les mêmes gens qui travaillent sur les mêmes objets.
Et encore aujourd'hui, là, j'ajoute simplement ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup circulé aux États-Unis. J'ai observé, j'ai visité des entreprises dans le secteur des lanceurs. Il y a des salles que je peux pas du tout ouvrir, quoi, parce que c'est pas possible. Enfin, là, c'est classé défense, c'est sous tutelle militaire, c'est ITAR, c'est de fait. Enfin, le trafic qui encadre, enfin le trafic, le marché du spatial. Le spatial, c'est militaire, point barre. Et moi, je l'ai découvert de façon assez brutale. Il y a un moment où vous n'entrez pas, c'est comme ça. Et ça l'est depuis le début, et encore aujourd'hui. Donc on se paye deux mots quand on parle du spatial, le lanceur, la fusée. En fait, on a affaire à des missiles.
Il y a une figure très intéressante dans cette dualité qui n'en est pas une, c'est la figure des astronautes, puisque ce sont tous des militaires, mais qui ont été en quelque sorte démilitarisés dans l'opinion, puisque à la fois on vante leur caractère de pilote de chasse, leur intrépidité, leur courage, c'est des héros, de la Navy ou de l'Air Force états-unienne, ou des pilotes soviétiques, mais en même temps, on les présente aussi comme des scientifiques, comme des expérimentateurs, comme des gens qui, dans un autre contexte, vont transformer malgré tout avec une autre image et avec une apparence, un uniforme qui n'est pas tout à fait militaire. Le costume spatial, ce n'est pas exactement l'uniforme de pilote. Voilà. C'est une figure qui permet de jouer sur cette ambivalence.
On avait dit qu'on ne disait pas de mal de Thomas Pesquet.
Alors, non, on ne va pas dire du mal de Thomas Pesquet. Et puis, c'est intéressant parce que Thomas Pesquet, c'est bien après. Dans ce que vous dites, il y a plusieurs périodes, en fait, hein, dans la construction de la figure de l'astronaute. On a d'abord donc, le film, hein, L'étoffe des héros, donc le livre. Donc, c'est cette personne extraordinaire, donc effectivement, qui sont plutôt des pilotes de chasse, des bidasses, quoi, hein, en gros, hein, c'est des militaires.
Ça, c'est le programme Mercury, voilà. Le premier programme spatial des États-Unis.
Exactement.
Fin des années 50.
Et donc, des gens qui sont aussi des casse-cou, hein, et qu'on va civiliser un peu, effectivement. Après, on les prend aussi dans le domaine militaire, parce que c'est là où on leur dit tu vas aller là, à tel endroit, tu vas obéir, et ils vont le faire. C'est plus simple, en fait, qu'un pilote de ligne, puisqu'on y a pensé. On a aussi pensé à envoyer des gymnastes. Après tout, on a envoyé des singes. Donc, si vous voulez, il faut créer aussi
tout ça étant parfaitement montré dans le film L'étoffe des héros, qui restitue ces dilemmes-là
de façon très fidèle. Mais ça, c'est la première étape. Effectivement, c'est le côté cow-boy. Après, la figure de l'astronaute, comme vous commenciez à le dire, évolue dans les années 70 au moment de déclin, en fait, post-Apollo. Et là, c'est la figure scientifique. La figure du bâtisseur aussi qui va arriver, hein, celui qui construit les stations spatiales en orbite, mais aussi celui qui va faire de la science. Mais on est dans un autre registre qui est plus un registre de conquête, mais qui est un registre de justification du vol habité. Il faut justifier, au tournant néolibéral, le fait qu'on dépense beaucoup d'argent là-dedans, donc on quitte un peu ce domaine, et on a encore une autre rhétorique aujourd'hui, donc on a encore une rhétorique scientifique, on a une rhétorique climatique, on a une rhétorique raciale, qui existe aussi dès le début des années 80, on envoie des personnes noires, des afro-américains, toutes sortes de personnes sur, dans l'espace, dans les navettes, etc. Donc je pense que vraiment la figure de l'astronaute, elle est à replacer à chaque fois dans un contexte qui consiste à convaincre que c'est utile, et donc elle bouge un peu tous les 10 ou 20 ans.
Et ça, il faut le dire, mais ça c'est une grande constante depuis... Pas les toutes premières années, mais c'est encore vrai jusqu'à aujourd'hui. Vous insistez très lourdement dessus, sur le fait que ça ne sert à rien. D'un point de vue scientifique, les astronautes en orbite, ça ne sert à rien. Ça
coûte mauvais milieu pour faire des expériences scientifiques. Il y a plein de vibrations, de conditions mauvaises.
Ça coûte extrêmement cher et on aime bien les présenter comme des gens qui essayent de travailler avec des orchidées, etc. Mais ça n'a aucune utilité. On n'a rien découvert d'utile scientifiquement en orbite. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, c'est les expériences les plus chères et les moins utiles qu'on puisse faire. Irène Regnault.
Oui, mais je pense que c'est dans la lignée de ce que je viens d'évoquer. Au détour des années 80, on a un besoin de justification qui passe par la science. On a des revues grand public, des magazines dans lesquels, au début des années 80, on va mettre par exemple une petite fille qui a une maladie incurable et qui va être guérie par un médicament miracle créé dans ce milieu si spécial qu'est la station spatiale. Alors, c'est pas encore la station spatiale internationale à l'époque. Du fait de la microgravité, du fait de cet environnement, en fait, qui parce qu'il est particulier, alors en découlerait naturellement donc ce qu'on appelle des retombées, en fait. Hein. Donc, ils sont soit des transferts technologiques d'un côté, donc c'est des choses qui existent dans l'industrie spatiale et ailleurs, soit la retombée qui est plus de l'ordre de la sérendipité, en fait, hein, qui est par hasard. Et puis là, c'est toute la série des objets qu'on va vous montrer un peu partout. Ça va être les couches lyophilisées, ça va être le lait pasteurisé, ça va être le velcro, ça va être le matelas à mémoire de forme, etc. Ces objets qui existaient pour beaucoup d'entre eux avant, hein. Le velcro, ça existe depuis 1934. Mais qui sont spatialisés, effectivement, qui à la marge vont bouger et alimenter cette rhétorique. Moi, je crois que c'est une forme de fascination qui est très intéressante vis-à-vis de l'histoire des sciences, parce qu'on pense que parce que cet environnement est celui-là, alors un miracle va avoir lieu. Effectivement, ça n'est jamais arrivé. Et jusqu'à récemment, moi j'ai lu récemment, parce que l'ESA est encore dans cet effort, donc l'Agence Spatiale Européenne de Justification, donc idem, j'ai fait un peu un saut dans le temps, mais on commence à avoir des compilations, par exemple, des travaux de Thomas Pesquet en orbite, à travers des papiers scientifiques dont on ne comprend pas forcément trop la scientificité, à vrai dire. Hein, c'est plutôt
Je vais vous couper le micro, on va se faire comme ça. J'ai du mal de Thomas Pesquet.
Non, mais par contre... Juste pour finir là-dessus, il y a quand même un rapport avec le militaire, parce que ce sont aussi des figures, les astronautes, qui sont finalement très nationalisés, en fait, qui sont au service de leur pays, hein, chacun ses astronautes. Les Français connaissent Thomas Pesquet, ne connaissent pas Samantha Cristoforetti ou d'autres, à la limite Armstrong. Et aujourd'hui, même dans le vol habité, qui était quand même, du point de vue de la rhétorique, un élément de pacification des affaires spatiales, pas vraiment. Les Chinois ont leur station avec les Russes, les Européens hésitent un peu, les Américains font peut-être la leur avec du soi-disant privé. Donc en fait, ça redécompose quelque part quelque chose qui est encore de l'ordre du old space, c'est-à-dire de la course à l'espace, en fait, qui, elle, est aussi le pendant public du militaire.
Juste pour ajouter, en fait, on vit le passage du cow-boy au cobaye, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que on a cette figure héroïque.
C'est déjà un peu cobaye quand même.
Déjà, mais là, plus intensément, après, dans la station spatiale internationale, l'essentiel de l'activité, c'est quand même serrer des boulons. C'est une grosse infrastructure, il faut la maintenir et c'est très compliqué. Et du point de vue de l'ingénierie, c'est l'ISS, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Hein, ça n'a pas été évident à assembler. En plus, c'était Mir 2 plus la station spatiale américaine, des morceaux européens et tout. Bon, c'est un truc assez sophistiqué, il faut le faire fonctionner. Et après, c'est des expériences sur le corps humain, massivement. Un corps humain qui n'est pas fait pour ce milieu, quoi. Donc c'est là où il y a une espèce d'intensification de cette logique de test sur le cobaye, parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment faire à bord de la station. Et pour avoir fait, moi j'ai vu des expériences en 0G, c'était l'essentiel des expérimentations qui étaient faites dans l'avion en vol parabolique. C'était alors les réactions du corps humain à tel stimuli nerveux, machin. Bon, c'est une science
circulaire
qui pense une condition humaine qui est fondamentalement mais désajustée à cette expérience de la microgravité. Alors, est-ce que ça sert quelque chose? Bon, nous on a notre petite idée. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une surdépense de justification qui interroge.
Si on revient un instant à la dimension militaire qui nous occupe ici en théorie en tout cas, même si c'est évidemment hyper intéressant de voir que les justifications scientifiques n'en sont pas toujours ou pas toujours bonnes.
Parce qu'on peut le dire que l'argument quand même un peu central, c'est que tout ça sert aussi beaucoup à faire passer des budgets militaires. C'est-à-dire si on leur donne une fausse dualité que vous indiquez, etc., Bon, après ça, on peut le réinterroger parce que c'est pas comme si les budgets militaires avaient beaucoup de mal à passer pendant
la
guerre froide.
Non, ça mais sert pas vraiment à faire passer des budgets militaires, parce que ce serait un peu tendancieux de dire ça. C'est pas pour ça qu'on fait du vol habité. Mais ça maintient une forme de fascination et de consentement aux affaires spatiales, quelles qu'elles soient.
Une forme d'évidence du spatial comme un domaine à investir. Alors, au-delà des ICBM, donc on a dit, c'est ces missiles intercontinentaux balistiques dont tout le monde pensait pendant la guerre froide qu'ils allaient annihiler la planète, ou qu'ils pouvaient le faire très facilement. Finalement, les ICBM, ils sont en partie spatiaux seulement, parce que c'est des missiles sol-sol, après tout. Ils font un trajet dans l'espace, mais ils ne sont pas destinés à quelque chose de spatial. Et en fait, vous montrez qu'il y a plein de possibles oubliés, plein de choses qu'on a expérimentées du point de vue militaire dans l'espace durant les années 60. Ça ne s'est pas toujours concrétisé, ça s'est concrétisé partiellement. On pense notamment à l'avion spatial X-15, on pense à des vols habités de renseignement. Autrement dit, il y a eu toute une configuration militaire de la guerre froide qui ne se résume pas au possible échange nucléaire, qui était le cœur évidemment stratégique de la pensée de guerre froide, mais qu'il y avait toute une série d'autres dispositifs dont certains sont complètement oubliés aujourd'hui.
Alors, sur l'avion spatial, en effet, ça, c'est là aussi, c'est le mantra de toute l'industrie. C'est la convergence, finalement, de l'aéronautique et du spatial. Et là, il y a eu un nombre, incalculable d'expérimentations, de plans. Alors, on évoque le Dinosaur, d'ailleurs, c'est l'avion spatial qui a été développé dans fin des années 50. En tout cas, ces plans, c'est Dornberger, un ancien de Pinemund, qui est quand même à l'origine de cette technologie.
Un nazi n'est jamais loin dans ces années-là.
Voilà. qui travaillait, lui, dans l'industrie privée, mais très en lien avec l'armée et la NASA. Et là, on a un avion spatial qui aurait pu remplir plein d'usages, en effet, de renseignement, de satellisation, voire de mouvements hostiles en orbite.
De bombardement depuis l'espace.
Bien sûr. Donc, on a le Dinosaur. Du point de vue du design, là, tapez Dinosaur, Dynasoar, sur Google. Vous verrez à quoi ça ressemble. C'est un très bel avion. C'est des vues assez futuristes. Les avions spatiaux qu'on nous vend aujourd'hui, certains industriels privés, on n'est pas très loin en termes de design. En gros, c'est un avion spatial qui est posé sur un premier étage de lanceur. Et ça, c'est les années 50-60. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour des raisons budgétaires. Ça a été, là aussi, il y a des coupes par moment. Il y a des lignées techniques qui sont interrompues ou pas complètement commencées.
Des arbitrages en termes d'utilité.
Des arbitrages, d'utilité. Et ça fait partie, en effet, de toute cette panoplie potentielle, d'usage potentiel de l'espace. Certains futurs qui étaient vendus à l'époque comme ça va se passer l'année prochaine, bon, ça ne marche pas, etc. C'est plus ou moins oublié. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer aussi cette prolifération de concepts.
Cette créativité, je dirais.
Ouais, mais militaire, d'ingénierie, et qui a donné parfois, c'est l'aile volante. Voilà, l'aile volante, c'est un vieux concept des années 30, là encore, d'ingénieurs allemands, et qui a donné des avions de reconnaissance, des bombardiers nucléaires.
Des albums de Blake et Mortimer.
Aussi. Donc c'est ce qu'on a voulu aussi montrer. Ça fait partie, en fait, de l'histoire du spatial. Quelque chose qui n'est pas très connu, ou alors sinon vraiment des geeks que ça intéresse. Il y a des passionnés d'armement spatial ou spatialisable. Nous, qu'on a découvert, en vérité, moi, c'est pas un champ que je connaissais plus que ça. Et il y a une littérature qui est plus ou moins épaisse sur ces questions. Et là, il y avait plein d'avenues potentielles pour ce spatial qui, pour certaines, n'ont pas été réalisées. Ouais.
Vous évoquez à un moment la distinction conceptuelle entre militarisation de l'espace et arsenalisation de l'espace. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Oui, c'est un peu le débat depuis le début des années 60 et puis aussi dans la construction juridique autour de l'espace. Petit détour, on a 5 traités qui dit du droit de l'espace qui encadrent les activités spatiales avec un traité majeur qui est celui de 1967 qui va interdire de placer des armes de destruction massive en orbite et donc aussi un petit peu calmer les ardeurs du début des années 60 où on les fait exploser en orbite aussi. Donc en 63 on commence à interdire, 67 c'est sanctifié. Parce que on se rend compte aussi que cet environnement est fragile, que quand on fait exploser quelque chose en orbite, ça crée des radiations, qu'on peut potentiellement aller entre guillemets foutre en l'air tous les satellites qui sont là. Alors à l'époque, il y en a pas encore beaucoup, mais il y a un débat qui est effectivement.
Mais c'est intéressant parce que cette distinction conceptuelle, elle sanctuarise en quelque sorte ce que vous indiquez depuis tout à l'heure. Ça n'a aucun sens d'interdire la militarisation de l'espace puisque tout est militaire dans l'espace.
En fait,
donc on peut éventuellement interdire de mettre des trucs qui font tout péter en l'air, mais l'idée que l'espace ne serait pas militaire n'a aucun
mais
sens
en réalité. Mais il y a un sens un peu conceptuel ou en termes de représentation de ce qu'est la guerre spatiale. La militarisation, c'est utiliser le domaine spatial à des fins militaires. Ce qu'on fait depuis le début, y compris avec les ICBM, donc les missiles balistiques intercontinentaux, qui effectivement frôlent l'espace, mais qui profitent quand même du milieu. Donc c'est quand même un peu des armes spatiales, en fait, qui d'ailleurs ne rentrent pas vraiment dans le cadre des traités. Les traités interdisent les armes en orbite, encore une fois. Donc, deuxième subtilité, si vous lancez une arme qui ne fait pas une orbite complète, du coup, elle ne rentre pas dans le traité non plus. Donc, vous utilisez quand même le milieu spatial, mais vous n'êtes toujours pas dans l'arsenalisation qui, elle, ne concerne en fait que le fait de mettre des armes dans l'espace et encore une fois des armes de destruction massive.
C'est-à-dire de stocker des bombes nucléaires,
de stocker des bombes nucléaires en orbite. Mais ce qui n'a pas d'intérêt, si vous voulez, vous êtes à 400 ou 500 km, bon, un ICBM de Moscou, enfin, un peu plus à l'est jusqu'aux États-Unis, ça met 20 minutes à venir. Donc si vous mettez des bombes atomiques en orbite, ça mettra peut-être un peu moins de temps, mais le gain n'est pas phénoménal. Et d'ailleurs, même Cuba, en fait, ça ne change pas grand-chose d'avoir des missiles nucléaires à Cuba ou en Russie, c'est pas vrai en fait. Donc c'est un débat qui persiste et qui, enfin, à mon sens, est très intéressant.
Rappelons le fait fondamental, mais qui est vrai sur tout un tas de choses, qui est qu'on ne sait pas intercepter un missile balistique. On ne sait pas.
C'est très compliqué.
Ça ne marche pas.
C'est très compliqué.
Et on pourrait éventuellement savoir, mais certainement pas avec la taille des arsenaux tels qu'ils sont. Donc si on veut faire péter quelque chose, si on veut envoyer une bombe nucléaire quelque part, on peut tout à fait, toutes les puissances qui ont l'arme atomique peuvent tout à fait le faire. Donc, toute cette espèce de compétition, c'est des messages, c'est du signalement, etc., etc. Mais la destruction assurée, elle est totalement assurée parce qu'il n'y a pas de bouclier anti-missile balistique.
On aura bien tenté, mais effectivement, c'est très difficile. D'autant que ce sont des missiles qui sont mirvés, donc ils peuvent. Enfin, vous lancez un missile, en fait, vous en lancez 12, et puis il y a des leurres dedans, donc vous ne pouvez absolument pas voir ce qui arrive. Mais enfin, tout ça pour dire que cette dualité militarisation-arsenalisation, c'est aussi une construction un peu mentale qui fait oublier que la principale arme spatiale, en fait, c'est pas le laser dans l'espace, c'est pas le satellite qui tire, c'est l'ICBM, tout simplement. Et en fait, le mode de régulation des armes spatiales le plus efficace, entre guillemets, même s'il n'est pas complètement efficace, c'est plutôt les traités de désarmement, en fait. Donc ça va être SALT, ça va être START, ça va être tous ces traités qui sont aussi encore un petit peu abandonnés aujourd'hui et remis en question par d'autres nouvelles armes. Et c'est ça, en fait, la guerre spatiale. Et en fait, on est encore aujourd'hui dans ce fantasme de guerre spatiale, y compris dans les doctrines modernes, où on s'imagine, comme on s'imaginait dans Moonraker dans les années 70, qu'on allait se tirer dessus dans l'espace, on a encore cet imaginaire qui arrive, alors qu'en fait, l'essentiel des activités d'attaque des moyens spatiaux entre pays, elles sont plutôt au sol, en fait. C'est le segment sol, c'est du hacking, c'est donc de l'informatique, en fait, bêtement, et pas vraiment des satellites. Il y en a quelques-uns qui vont aller s'entre-espionner, évidemment, qui vont aller se renifler, comme on dit, mais c'est pas l'essentiel des dangers qui reposent aujourd'hui sur le militaire spatial.
Bon, il faudra qu'on vous réinvite pour faire un tour d'horizon culture populaire entre Moonraker, Iron Sky, For All Mankind, Doug Danny.
Je pense que c'est des choses.
C'est bien là l'idée que les nazis sont sur la fâche cassée de la Lune.
Non, mais c'est des choses qu'on a essayé de pas décorer. Justement, parce que vous prenez Iron Sky, les nazis derrière la Lune, enfin, en fait, c'est quand même très très enchevêtré, et même dans l'imaginaire des militaires, en fait, quand ils s'imaginent qu'ils vont aller faire exploser des bombes sur la Lune, ou faire des bases spatiales sur la Lune qui envoient des bombes atomiques...
Projet qui a totalement existé, faire exploser une bombe atomique sur la Lune.
Tout à fait, bien sûr.
Il y a des études qui vont vous retracer très bien qu'ils ont fait des études.
Sur Mars aussi, je crois. Oui, non, le projet a existé, effectivement. Mais la bombe n'a pas explosé. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Enfin, voilà, en tout cas, on n'est jamais complètement décorrélé de la culture populaire.
Alors, il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que vous montrez aussi très bien cette plasticité de l'astroculture, qui peut être à la fois vectrice de paranoïa, de désir de guerre, de budget militaire énorme, mais en même temps qui peut tout à fait se prêter à des discours de paix. C'est le message envoyé sur Terre de l'équipage d'Apollo 8 en décembre 68 pour dire voilà, cette Terre que nous voyons de loin, on veut la préserver. C'est la mer de la tranquillité où elle unit Apollo 11, et du coup, on parle de tranquillité à tous les hommes. C'est ensuite le vol Soyuz Apollo 1975, tous ces gestes de rapprochement, les multidimensions. Fusion en plusieurs langues, tout ce côté œcuménique de l'espace qui est notre bien commun, la Terre vue de loin, on prend conscience de sa fragilité, etc., qui sont aussi beaucoup des lieux communs, mais des lieux communs qui accompagnent malgré tout une forme de détente spatiale. Vous avez cité 1967, la date de ce traité. On n'est quand même plus tout à fait dans l'ambiance du début des années 1950, et ces discours de paix peuvent, d'une certaine manière, pas se substituer, mais gagner en importance.
Bah, c'est la thèse qu'on a pas expliquée du livre, c'est qu'il y a une espèce de paradigme, de modèle de la conquête spatiale, donc que nous on interprète comme la espèce de superposition de couches qui s'ajoutent, qui deviennent de plus en plus lourdes à mesure qu'on avance dans le temps. Et il y a une construction aussi, en effet, de l'espace comme lieu de pacification, lieu de science, de découverte, de connaissance. Ça peut passer par l'astronomie, par l'observation de la Terre, etc. Et ça avance aussi avec cette vision parfois très militaire, agressive, où on est plutôt dans la destruction de l'adversaire. Faut pas l'aider. Enfin, ça serait trop facile de dire bon bah c'est une espèce de subterfuge, même si c'est un petit peu ça sous Apollo quand même. Hein, d'usage rigoureusement militaire et puis on divertit les masses avec la conquête de la Lune. Bon, ça a été un peu pensé comme ça aussi Apollo. Hein, faut quand même le dire. Mais globalement, on a malgré tout ces visions qui viennent pas forcément des mêmes acteurs. Qui viennent malgré tout progresser dans le même horizon qui est celui de la conquête de l'espace. Ça va être, alors les scientifiques, on en parle pas mal en fait dans le livre aussi, des astronomes, des astrophysiciens, des géophysiciens, etc., des planétologues, des gens qui produisent une autre vision de cette technologie, hein, de ses usages, mais qui participent du même élan. In fine, il faut y aller, quoi. C'est l'évidence spatiale. Et donc la réponse que je ferai, elle est celle d'une espèce de complexité, de palimpseste. On parle de palimpseste, tout ça, c'est des couches qui se superposent, qui sont tellement liées les unes aux autres, que ça serait dommage de parler que du militaire, ou en même temps, de l'autre côté, de parler que du scientifique, en oubliant le militaire. Tout ça participe de la même histoire.
Voilà. C'est quand même très paradoxal, parce que ces grands moments de pacification, on pense donc 75 poignées de main entre Stafford et Leonov, c'est aussi de la mise en scène, avec de l'anecdote derrière beaucoup, hein, parce que le spatial, ça fonctionne beaucoup par anecdote, en tout cas dans la presse généraliste ou dans les communautés de fans. Donc par exemple, il y a l'anecdote des deux modules qui doivent s'accrocher l'un à l'autre, et ni l'URSS ni les États-Unis veulent faire la femelle, parce que c'est mâle femelle. Ouais. Voilà. Donc il faudra trouver un autre système qui va du coup permettre d'inventer quelque chose de nouveau, donc hop, une retombée. Au même moment où c'est quand même la guerre, en fait, un peu partout, où on a quand même deux blocs qui sont quand même en confrontation très dure, où on a des ICBM qui sont dans leur silo prêts à partir, et puis quelques années plus tard on aura un Reagan qui va arriver avec un projet d'interception de missiles balistiques intercontinentaux qui ne va jamais marcher, qui va plutôt être une arme économique, tu pourras en parler. Donc il y a un côté mise en scène, tout comme dans la station spatiale internationale après, en fait, hein, ce sont aussi des armes géopolitiques côté États-Unis. Le fait d'aller récupérer les cerveaux du bloc effondré, le fait d'éviter qu'ils aillent, par exemple, je sais pas, dans un rogue state, ou pire, qu'ils fassent des accords avec la France, par exemple. Donc l'idée, c'est d'amener les pays à collaborer avec eux aussi dans un effort de pacification, qui est aussi un effort de domination et d'imposition d'une norme, en fait. Donc ça, c'est, et puis aussi accessoirement donner des débouchés à une navette spatiale qui va nulle part. Donc c'est jamais complètement innocent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu de collaboration quand même, que dans l'imaginaire collectif, effectivement, l'idée d'une station spatiale internationale, c'est vendeur, en fait, aussi d'un point de vue marketing, donc on peut concevoir que ça marche un peu quand même.
Mais ça vient après la chute du mur.
Tout à fait.
Ouais.
Mais avec cette longue constante, qui est ce que vous appelez l'astrodéterminisme, qui est quand même cette idée que l'espace est absolument stratégique, que quoi qu'il arrive, il faut tenir l'espace, ou en tout cas il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre le tenir, parce que sinon c'est une situation de vulnérabilité incroyable. Et ça, c'est vous montrer bien que c'est vraiment une grosse structure sur le long terme qui ne bouge pas. Alors ça passe par des fantasmes de « il faut contrôler la Lune » ou « les points entre la Terre et la Lune » et « les points de Lagrange entre la Terre et la Lune ». Enfin, il y a plein de variations de ça. Mais en tout cas, fondamentalement, c'est la grande culture stratégique sur ces questions-là, c'est l'espace, c'est stratégique, c'est crucial, parce que si on n'a pas l'espace, on est à la merci.
Ce qui est surtout vrai pour les États-Unis, quand même, parce que quand on regarde quand même la big picture du nombre d'objets en orbite militaire, les États-Unis dominent, en fait. Enfin, on est sur en ordre de grandeur plutôt des milliers face à des centaines du côté russe en perte de vitesse ou du côté chinois. Mais oui, il y a cette rémanence de cette idée. Alors aux États-Unis, il y a plusieurs doctrines qui vont s'entremêler, hein, de space control, donc contrôle de l'espace, aussi la capacité à dénier aux adversaires le fait d'accéder à l'espace, la domination spatiale aussi, space dominance qui passe aussi, ou space power. Enfin, voyez, tous ces termes qui arrivent un peu dans la littérature grise aussi, qui reviennent dans les années 90 pour asseoir cette domination à la fois économique, militaire et culturelle. On a des détours, donc quand même des moments de pacification et des détours. Enfin, quand on regarde les 20 dernières années, il y a quand même un retour quand même de cette idée astrodéterministe et à travers des écrits, hein, par exemple je pense aux écrits d'Everett Dolman, donc plutôt des faucons, hein, qui vont arriver avec des théories militaires assez agressives, ou la commission Rumsfeld qui va faire revenir cette idée de point haut et de nécessité de dominer, comme si l'espace était à lui seul une stratégie. En fait, et on fait un peu d'un moyen une stratégie, et quelque part il y a un renversement des fins et des moyens qui, dans la littérature d'ailleurs d'analyse du spatial militaire, est aussi très critiqué par la communauté de la recherche, puisque il y a plein de cas où en fait le spatial n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la guerre. Alors vous qui travaillez sur le sujet, vous le savez bien, il n'y a pas d'arme ultime en fait. Hein. Prenez deux pays frontaliers, l'espace a une importance qui n'est pas du tout la même que si ce sont deux pays lointains, et ces situations, on peut les répéter à l'envi.
Et évidemment, tout ça, on pourrait en faire toute une émission, mais culmine avec la Space Force, qui est en quelque sorte l'aboutissement organisationnel de cette logique stratégique-là. Simplement,
juste que... Space Force, dont le slogan, c'est Semper Supra, toujours au-dessus. Donc on a toujours cette idée, quand même, qui est encore là.
Mais alors, on n'a pas du tout le temps, on est déjà à plus d'une heure, donc et on pourrait en parler encore des heures et des heures, mais il y a quand même un élément dont il faut parler, qui est un des derniers chapitres du livre, qui touche autour de cette idée, ce lieu commun qui est que l'espace se privatiserait, notamment autour de SpaceX, notamment autour d'Elon Musk, dont on a dit tout à l'heure qu'il était nazi. Non, on n'a pas dit ça du tout.
Il l'est par ailleurs, mais on ne l'a pas dit.
Enfin, il donne beaucoup d'indices quand même. Mais autour de cette idée que on irait vers l'abandon d'un monopole militaire ou étatique de ce qui se passe dans l'espace, etc., etc. Et là, vous faites, pour le coup, dans ce chapitre, je crois que c'est le chapitre 4, une très grosse monographie de SpaceX, où vous montrez le développement de SpaceX, et vous montrez bien que cette idée d'un décollement de SpaceX du militaire n'a aucun sens. SpaceX est né du militaire, dans les satellite, disons, de l'institution militaire américaine. SpaceX a grandi avec le militaire, n'a vécu que de budget militaire américain, essaye de civiliser, mais ça n'est pas rentable, et que toutes les perspectives de SpaceX impliquent des budgets militaires, et d'ailleurs ils sont très agressifs commercialement aux États-Unis pour les sanctuariser. Donc peut-être, essayons de démolir un peu cette idée que Elon Musk est un contre-pouvoir à l'appareil militaire américain. C'est pas ça qui se passe.
Non, c'est sans doute le plus facile à faire. Enfin, du point de vue de la démonstration, il suffit juste de reprendre toutes les sources de cette histoire de SpaceX, mais de toutes les autres entreprises du New Space, ce qu'on appelle le New Space, l'espace entrepreneurial, 2.0, innovant, etc. En fait, il y a une longue histoire du privé dans l'espace. J'ai cité Boeing tout à l'heure, j'aurais pu en citer plein d'autres, hein, Lockheed Martin, etc. Donc on a des entreprises privées qui contracte avec l'État fédéral, avec une variété d'agences. Enfin, il y a tellement de guichets aux États-Unis, c'est quand même très, très varié. Et donc, il y a toujours eu cette collaboration.
Autant de guichets veut dire autant de portefeuilles dans lesquels taper.
Exactement, voilà. Beaucoup d'argent, en tout cas, et des entreprises, enfin, des industries qui se sont structurées pour répondre à la commande. Enfin, par exemple, Hughes, dans les années 50, crée une division espace parce qu'il y a de l'argent, Ford aussi. Enfin, et SpaceX fait partie, en fait, de ce paysage, hein, technique, industriel, etc. Et il se trouve que dans l'histoire de la compagnie, il y a un premier investissement de Musk. Il met un peu quand même au pot. Hein, c'est à peu près 200 millions, ce qui est quand même pas mal. Hein, mais c'est pas... Ça va, c'est relativement aux investissements.
Ça part vite en fumée dans le
spatial. Voilà, et relativement aux investissements de la NASA dans SpaceX, c'est quand même à relativiser. Et par ailleurs, c'est aussi l'usage des brevets qui ont été... c'est toute la R&D en amont qui a été produite, d'ailleurs, chez les industriels contractants de la NASA, que SpaceX va récupérer. C'est de la main-d'œuvre, c'est des infrastructures, des bases de l'US Air Force depuis lesquelles on va lancer les premiers Falcon 1, avec un succès tout relatif, hein, puisque ça explosera les trois premiers vols. Ce sera aussi toutes les facilités fiscales offertes par la Californie, aujourd'hui le Texas, pour que SpaceX puisse se développer à Boca Chica, qui est donc la frontière ultime aujourd'hui, en tout cas présentée comme telle du New Space, ou que j'ai visité en 2020, enfin vite fait, hein, deux jours. C'était pas l'État, c'était pas la Starbase d'aujourd'hui, mais c'était déjà assez massif, hein, avec un accaparement autorisé, encouragé par l'État du Texas. Hein. Et donc il y a une espèce de co-construction.
Accaparement, ça veut dire qu'ils viraient les gens de chez eux pour faire la base, quoi.
Bien sûr. Oh, oui, non, mais et donc ça c'est le modèle SpaceX avec Néanmoins, et là c'est là où il faut être un peu subtil aussi, parce que au même moment, d'autres entreprises échouent, hein, qui sont à peu près dans les mêmes modèles, des entreprises qu'on a complètement oubliées, hein, qu'on cite, hein, Kistler Aerospace, qui était présentée à l'époque, qui était bien plus mise en avant que SpaceX. Hein. Là où Musk a été très fort, malgré tout, comme entrepreneur un peu fracassant, c'est que lui, il va défier l'establishment, il ramène Falcon 1 sur le mall à Washington, en signe de bravade vis-à-vis de Boeing, enfin de tous les établis du vieux complexe militaro-industriel. Donc il y a un côté un peu, un peu disruptif, comme on disait à l'époque, enfin ça on le dit plus trop aujourd'hui. Et donc il a tenté quelque chose, il se trouve que ça a marché. Alors si ça a marché, c'est parce qu'il a été largement aidé, quoi. Mais c'est pas pour minimiser, hein, c'est-à-dire c'est juste un fait. Après il y a certaines formules, enfin quand on le lit, on a l'impression que c'est lui l'ingénieur, quoi. Bon, il y a quand même Tom Mueller.
L'ingénieur en chef.
En chef, bah. Bon, le continuum. Donc,
c'est vous qui l'avez dit.
Donc cette continuité, ça permet de montrer qu'il y a une histoire longue du privé dans l'espace, que la privatisation, bon, c'est une façon de marketer en fait une espèce de nouvelle séquence de l'histoire spatiale, mais qui, bon, franchement, le privé entrepreneurial, on en parle déjà dans les années 80, il y a plusieurs compagnies qui sont déjà sur ce créneau, on en parle un petit peu, qui pour certaines ont été oubliées, et donc voilà, privatisation, nous on met des bémols, de la même façon qu'on interroge les frontières entre le civil et le militaire, le dual, etc. Bah, le privé, là aussi, c'est une catégorie qu'il faut interroger du point de vue de la culture politique états-unienne, des rapports entre le public et de l'État et du privé. Bon, bref, et SpaceX, finalement, c'est le monstre de toute cette histoire, voilà, d'une certaine façon, qui a tout arraché aujourd'hui et qui est tellement gros, et qui est devenu tellement gros qu'il ne peut plus échouer.
Oui, mais simplement, disons-le, c'est aussi un élément central, c'est que c'est devenu... SpaceX a absolument besoin de la commande militaire américaine parce que Starlink, c'est sympa, etc. Ils l'ont prêté avec des limites aux Ukrainiens. Ça n'est absolument pas rentable et ça n'a aucune perspective de rentabilité, si ce n'est s'ils développent leur lanceur hyper lourd. Mais enfin, SpaceX, il va y avoir de la maintenance aussi. En tout cas, dans le livre, vous aviez l'air assez pessimiste sur la rentabilité. Mais inversement, ils ne peuvent pas échouer aussi parce que vous indiquez bien que l'armée américaine a l'institution militaire américaine a absolument besoin de ce que SpaceX est en train de développer. Donc, il y a... c'est pas du privé.
Big to fail. Le problème aux États-Unis aussi, c'est qu'on peut compter sur assez peu de lanceurs aussi. Hein. Vous comparez à la Chine, où on a plusieurs dizaines de lanceurs, enfin dont 16 je crois, qui sont quand même assez majeurs. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins. Il y a des reconfigurations en cours entre Boeing, Lockheed, différentes industries. Tout ne marche pas comme il faut. Donc effectivement, c'est devenu un peu, toi tu disais un monstre, Arnaud, c'est ça, c'est devenu un peu trop gros en fait, et ça commence à déranger. En termes de rentabilité, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois donc se priver sous perfusion publique ou de fonds de pension, de choses comme ça, qui démarre aussi, qui tient sur la promesse martienne. Hein. Faut pas négliger un petit peu ça quand même qui est nouveau chez Musk, c'est qu'il y a un point de fuite en fait. D'ailleurs, si vous l'enlevez, il est probable qu'une partie du reste s'effondre en dessous en fait, puisque vous allez enlever la motivation à aller investir dans cette entreprise. Et concernant Starlink, donc filiale de SpaceX dédiée aux télécommunications, donc là on parle de satellites qui sont en orbite basse, qui sont censés connecter les territoires non connectés, qui ont aussi une vocation militaire avec Starshield, qui interviennent aussi dans l'idée d'avoir des infrastructures qui sont résilientes, hein, puisque quand vous avez 20-30 satellites militaires, quand on vous en casse un, c'est problématique. Quand vous avez 5000 satellites qui peuvent aussi... peut-être dans le futur, en tout cas Starshield le fait, faire de l'observation, vous pouvez en détruire 100, il en reste toujours assez, en fait, si vous voulez. Et donc ça pourrait, enfin, dans le livre, effectivement, on est dans le doute sur la rentabilité, mais qui de toute façon est très compliqué à calculer, puisque dans le business model, vous avez la commande publique, donc vous ne savez pas trop comment...
C'est ça, ça ne marche pas si vous faites les dépenses face au prix des abonnements.
En fait, ça ne marche pas, et en fait, il y a très peu d'économistes du spatial, il y en a un en France avec qui on parle très régulièrement et qui lui-même est encore un peu dans le doute. Et nous, notre boulot, c'est pas forcément d'aller dans les tableaux Excel, mais il y a une équation qui est délicate, encore une fois. Mais quand on regarde le passé des constellations, puisqu'il n'est pas le premier à le faire aussi, on le cite dans le livre, fin des années 90, plusieurs autres projets de constellations, d'autres manias de la tech, comme par exemple Bill Gates, qui est quand même pas des moindres, ce sont des choses qui ont parfois complètement périclité et parfois aussi duré, comme Iridium, et entre guillemets, racheté par le militaire américain pour passer des coups de fil en Afghanistan ou quelque chose comme ça. Donc, il y a toujours moyen comme de récupérer cette matière. Et on aurait tort, nous, Européens, bon, pour me faire un peu plus normatif, de croire qu'en fait, la question du business model est si intéressante. Parce que c'est un business d'État, en fait. Et c'est de la puissance avant tout. Et donc, quand on voit l'Europe aujourd'hui qui veut faire un SpaceX français, un Starlink français, en fait, ça n'a pas de sens dans la construction militaire du pays. On n'est pas les États-Unis, on n'a pas les 40 milliards de dollars de la Space Force et on ne parle pas des mêmes choses, en fait. Les États-Unis, c'est un monstre militaire, en fait. C'est un pays qui est surmilitarisé. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut penser à la fois SpaceX et à la fois Starlink.
Merci beaucoup Irène Regnault, merci Arnaud Saint-Martin. On rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire de la conquête spatiale, les fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space aux éditions La Fabrique. En attendant peut-être de reparler un jour voilà, de toutes ces incarnations, par exemple For All Mankind qui met en scène ces compétitions, ces rapports public-privé de façon plutôt intéressante. Deux conseils de mon côté en conclusion de cet épisode. Un podcast de la BBC qui est totalement dans la fascination pour la conquête spatiale, mais aussi totalement passionnant avec de l'audio d'époque, 13 Minutes to the Moon. Et puis un musée dans le Nord-Pas-de-Calais, la coupole d'Elfaux près de Saint-Omer, créé par l'historien Yves Le Manner. C'est un musée de la Deuxième Guerre mondiale et de l'espace dans une ancienne base de V2 allemande et c'est un endroit absolument incroyable à visiter et on peut également sans doute en y emmener des classes.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par André Loez et Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et suggestions et tout ça sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André, de Parole d'Histoire ou de moi-même, tout comme suggestions et notes et appréciations sur Apple Podcasts et sur Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.